Donc, je suis ancien directeur de recherche au CNRS et je suis depuis 10 ans professeur à l'université maintenant. Et je suis à l'origine de la création, porteur de projet et la directrice d'une UMR qui est mixte, CNRS-Université, et qui s'appelle Évolution et diversité biologique. Donc vous voyez, vous avez tous les mots ici qui correspondent à Darwin. Alors dans cette unité, il y a 7 équipes maintenant qui abordent de manière différente l'écologie évolutive et les mécanismes de l'évolution. Donc là, c'est un challenge. Hein, je vais essayer de résumer un petit peu la théorie de Darwin et voir également ce qui se passe maintenant actuellement, ce qu'on en retient, ce qui est resté et qu'est-ce qui a été amélioré sur cette théorie et qui l'est toujours puisque on travaille énormément en écologie et biologie évolutive et c'est passionnant les recherches sur ce thème. Alors, sur cette première diapo, je vous montre alors 150 ans après la théorie de Darwin. Alors, vous voyez la théorie de l'évolution, on va dire plutôt. Donc, vous voyez, il y a quelques images qui correspondent complètement à Darwin, bien sûr, c'est son portrait, mais également le bateau, le Beagle, sur lequel il a fait le voyage autour du monde. La classification aussi, dont il est à l'origine, le livre « Les origines de l'espèce » et bien sûr les organismes sur lesquels il a travaillé. Alors la molécule d'ADN, ce n'est pas de cette époque, bien sûr, mais c'est le support de l'hérédité dont il a soupçonné l'existence sans la connaître complètement. Alors, avant de rentrer dans cette théorie de l'évolution, je voulais vous présenter un petit peu l'histoire et ce qui se passait, ce que l'on connaissait au cours du siècle des Lumières. Alors, le siècle des Lumières, c'est globalement le 18e, fin du 17e et début du 19e également. Donc, il y avait des personnes telles que Erasmus Darwin, qui est le grand-père de Charles Darwin, médecin, Moreau, qui est un mathématicien et un astronome, et bien sûr Jean-Baptiste Lamarck, qui est un naturaliste, qui, à cette époque, ils ont tous fait le constat que les espèces n'étaient pas stables. Alors, il y avait un doute, ou alors il y avait même des observations. Alors, les observations, les espèces ne sont pas stables. En effet, si on regarde les éleveurs et les horticulteurs de cette époque, hein, même, la sélection artificielle qu'ils pratiquaient permettait de faire évoluer les espèces. Donc, cette sélection artificielle est pratiquée depuis pratiquement le néolithique. Et je vous ai donné l'exemple du chou sauvage, c'est pas facile à dire, du chou sauvage. Et donc, en fonction de la sélection qui était faite sur ce chou, on obtient, vous voyez, les différentes espèces de choux que j'ai mis autour. Donc, avec certains critères qui ont été sélectionnés particulièrement pour former une variété. Donc, à partir d'une espèce, et là, il y a plusieurs variétés de choux qui présentent des caractéristiques différentes. Alors, si on est à peu près tous d'accord pour dire que les espèces peuvent évoluer, bon là, c'est vers des variétés différentes, hein, c'est les mêmes espèces, mais des variétés différentes. En revanche, il y avait encore un débat assez important qui était sur l'extension de cette transformation. En effet, la transformation des espèces, jusqu'où remonte-t-elle dans le temps? Est-ce que c'est essentiellement au niveau d'espèces ou est-ce qu'on peut remonter beaucoup plus loin que les espèces, genre, famille, sous-famille? Quels sont les mécanismes qui conduisent à cette transformation? Et est-ce que toutes les espèces sont concernées? Bien sûr, il y avait la question sous-jacente, est-ce que l'homme aussi est concerné? Alors, au XIXe siècle, Lamarck, qu'on a vu précédemment, là, puisqu'il est de 1744 à 1829, estimait que la cause de l'évolution, c'était la pression de l'environnement sur l'individu. C'est-à-dire que, étant donné un individu dans un environnement différent du voisin, la pression de l'environnement faisait qu'il y avait une modification de l'individu. Alors, dans ces cas-là, il supposait que les organismes étaient contraints de se transformer pour survivre. Donc c'était une obligation, s'ils voulaient survivre, il fallait qu'il y ait une transformation. Et ensuite, quelque chose qui est complètement notamment acquis, bien sûr. La variation qui existait est ensuite transmise d'une génération à l'autre. C'est essentiellement le problème de transmission et hérédité que l'on verra par la suite, mais pas à cette époque-là. Alors, Lamarck donc proposait une hypothèse qui était l'hypothèse de l'hérédité des caractères acquis sous la pression de l'environnement. Et c'est Westman qui mit fin à cette théorie, cette hypothèse, on va dire, de l'hérédité des caractères acquis, en travaillant, puisqu'il travaillait sur la longévité des organismes, et se posait la question comment l'organisme qui a une longévité plus importante que son voisin peut-il transmettre ce caractère après sa reproduction. Donc là, ça a mis fin à cette théorie, mais on revoit cette théorie des caractères acquis au XXe siècle chez le biologiste soviétique Lysenko, qui soutient ardemment cette hypothèse encore au XXe siècle. Par la suite, le développement de la génétique a montré que les mutations, par exemple, qui conféraient une résistance à un virus, elles n'arrivaient pas en réponse à la présence de ce virus, mais en fait existaient préalablement dans la population. Alors, Darwin et également Wallace, qui étaient à peu près de la même période, mais beaucoup plus jeunes, proposent l'hypothèse de la mutation aléatoire. Alors, c'est un peu différent de Lamarck. En effet, dans ces cas-là, la variation n'est pas une conséquence de la pression de l'environnement, mais la variation, étant indépendante de la sélection, elle existe, elle préexiste dans la population. Donc, cette variation est existante dans la population. Et dans le cas où les variations engendrent des différences d'aptitude entre les individus, c'est-à-dire une variation chez un individu confère une meilleure transmission ou une meilleure survie ou une meilleure fertilité à cet individu, il va transmettre beaucoup plus de ce caractère. Donc si, on va voir qu'il y a des variations qui sont avantageuses, désavantageuses ou neutres, si la variation est avantageuse, l'individu qui possède le caractère variation avantageux va transmettre plus d'individus, donc va transmettre plus ce caractère avantageux. Alors, pour voir si vous avez bien compris, entre Lamarck et Darwin, alors l'exemple type que l'on donne, c'est pourquoi la girafe a un long cou. Alors, il y a deux hypothèses possibles, l'une qui correspond plus à Lamarck, l'autre à Darwin, bien sûr. Les ancêtres se sont transformés en étirant leur cou pour manger les feuilles. Ça veut dire que la pression de l'environnement ici serait la cause de la variation. Ou au contraire, les ancêtres qui ont par hasard un cou plus grand que les autres vont être favorisés petit à petit, de génération en génération, sur des milliers d'années, bien sûr. Vous allez avoir l'apparition d'individus qui présentent des longs coups. Alors, bien sûr, la première hypothèse, c'est Lamarck, et la seconde, c'est Darwin. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, encore quelques mots sur Darwin, donc, qui est né en Angleterre en 1809, donc on fête bien ses 200e anniversaire de naissance. C'est un naturaliste. Alors, ce qu'il caractérise, c'est sa prudence. C'est un naturaliste qui va chercher toujours, dans ce qu'il va observer, une explication rationnelle à l'origine de la diversité des organismes vivants qu'il va voir. Et en particulier, il va s'efforcer de ne rien avancer qu'il ne puisse attester par les faits. En effet, lorsqu'on va voir dans son voyage autour du monde pendant ces 5 années, il a pris des notes énormément. Il a par la suite envoyé questionner tous ses collègues, envoyé ce qu'il avait vu, questionner les collègues. Et ce n'est que 2 décennies plus tard, après son retour de son voyage, qu'il a écrit De l'origine des espèces. Donc c'est un homme prudent et en particulier, il était conscient des conséquences politiques de ses recherches. Prudent aussi, il s'abstient d'y évoquer la question de l'homme, puisque c'est encore beaucoup plus tard, 12 ans après, qu'il va poser la question de l'évolution de l'homme. Et l'origine de l'homme, dans l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, c'est en 1872. Donc vous voyez que ce n'est pas comme actuellement, enfin, entre guillemets. Donc il a observé, écrit, et il n'a publié que 20 ans et 12 ans, ça veut dire 32 ans après ce qu'il avait observé et cogité complètement. Non seulement c'est un naturaliste, mais c'était un écologiste, on pourrait dire avant l'heure, puisque le terme écologie n'est apparu qu'en 1866 et défini par Haeckel. Alors, il avait une vision qui était profondément écologiste du monde, puisqu'il insistait sur, lorsqu'il a observé toutes ces populations, ces espèces et l'évolution de ces espèces entre elles, il a insisté sur les interactions complexes qui existaient au sein du monde vivant, aussi bien végétal qu'animal. Et on peut dire actuellement, là c'est plutôt maintenant actuellement, l'écologie est confortée par deux grands versants de l'héritage de Darwin, c'est les observations du milieu naturel et la recherche de mécanismes. Donc c'est toujours à l'heure actuelle en écologie. On peut dire qu'il a une œuvre scientifique complexe qui est encore mal connue, mais maintenant ses écrits sont disponibles sur le net, donc c'est plus facile, mais très peu de personnes ont lu complètement les œuvres de Darwin qui sont extrêmement riches. Alors, quelques mots sur son voyage autour du monde. Donc, de 1831 à 1836, donc il a duré 5 ans. Donc, je vous montre ici le périple de son voyage. Et en particulier, il a travaillé sur de nombreux organismes, on voit le mantou d'Argentine, mais c'est surtout aux îles Galapagos qu'il a observé le plus de choses intéressantes, et en particulier ce dont je vais vous parler, c'est les ressemblances qui peuvent exister entre les organismes. Donc qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé des ressemblances entre les vestiges mammifères du Quaternaire, donc c'était fossiles qui étaient étonnamment proches de mammifères vivants dans les mêmes zones géographiques. Donc il avait les fossiles et les mammifères actuels, présentaient des caractères morphologiques très voisins, donc ressemblance. Ressemblance également entre organismes vivants d'un même genre, donc le genre espèce, hein, appartenant à deux régions géographiques qui sont en contact, donc proches. Des ressemblances entre les organismes éteints et les organismes vivants, mais à l'intérieur d'une même zone géographique. Et des ressemblances également entre certains fossiles, et en particulier des formes fossiles successives par leur morphologie. Donc, ces ressemblances, pour lui, étaient trop importantes pour qu'il ne puisse pas y avoir entre les formes étudiées une parenté qui existe entre ces organismes, et autrement dit, une histoire généalogique entre les organismes observés. Et cette histoire généalogique implique obligatoirement une transformation des espèces, donc on voit apparaître maintenant le mot « transformation des espèces », et non la création de formes vivantes, fixes et séparées. Alors, je vais essayer maintenant de parler des principes fondateurs de la théorie d'évolution et donner les deux versants de ces principes. Le versant descriptif qui est plus connu du grand public et également le versant explicatif qui va concerner beaucoup plus les mécanismes d'évolution. Donc, le versant descriptif qui va raconter l'histoire des êtres vivants depuis leur apparition sur Terre. Alors, dans ces cas-là, il s'agit comme un historien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour raconter une histoire? Il faut compulser les archives, c'est-à-dire regarder ce qui existe au niveau des fossiles, les examiner, les comparer. Ensuite, rechercher des témoins directs ou indirects, c'est-à-dire les traces actuelles des processus évolutifs passés. Donc, on va retracer ce qui s'est passé précédemment, et ensuite ordonner tout ça en établissant des chronologies. Et le versant explicatif, on va peut-être détailler un petit peu plus, c'est d'écrire les lois et les mécanismes qui sous-tendent cette histoire évolutive de la transformation des espèces et proposer, bien sûr, des liens logiques qui vont permettre de prédire les phénomènes observés ou de les comprendre a posteriori. Donc, il y a les deux versants. Alors, on commence par le versant histoire des êtres vivants, qui est le versant descriptif que vous connaissez beaucoup plus. Et on va faire un certain nombre d'observations. Le premier, c'est les êtres vivants ne sont pas fixes. Alors, c'est assez simple d'observer les fossiles. Et on observe les fossiles qui représentent la faune et la flore du passé, mais tous les fossiles observés correspondent à des groupes qui existent encore actuellement. Donc, passé, mais les groupes existent encore actuellement. Je vous ai donné deux exemples ici, les ammonites qui font partie des mollusques et les trilobites qui font partie des invertébrés. Mollusques et invertébrés existent encore actuellement. Donc, dans ces cas-là, on pourrait rejeter les dogmes fixistes qui préconisent que les espèces sont immuables. Le deuxième point, c'est les espèces vivantes, bien sûr, proviennent les unes des autres. Alors, elles proviennent les unes des autres par ascendance, via un processus de reproduction, avec les parents plus proches, les enfants sont plus ressemblants des parents qui ne le sont de n'importe quel individu pris au hasard dans une population. Mais cette transmission se fait également au cours de l'évolution avec des modifications. Alors là, on est dans l'histoire, on n'est pas dans les mécanismes, on verra par la suite les mutations, donc avec des modifications. Et ces modifications morphologiques que l'on observe, elles se sont produites au sein de lignées généalogiques des organismes. Alors, en fait, l'expression descendance par modification est complètement une expression de Darwin. Alors, quels sont les arguments qui peuvent étayer ce point de descendance par modification? On observe dans les espèces des variations graduelles au cours du temps. En effet, on peut recouper les organismes fossiles proches en des séries ordonnées, et en général ces séries ordonnées vont dans un sens, donc très souvent des changements directionnels de morphologie, soit vers une plus grande taille, soit vers une plus petite, mais il y a une direction de la morphologie, donc on peut organiser les fossiles. Comme exemple, je peux parler des séries de chevaux ou de rongeurs fossiles qui montrent tous une augmentation régulière de la taille du corps, donc progressive. On observe également des modifications au cours des populations actuelles. Alors, ceci est plus difficile étant donné que les variations, on va voir les mutations, les modifications qui sont en réalité les mutations, se font sur des temps très longs, et pour visualiser une modification de certains caractères, c'est-à-dire qui envahissent une population, c'est souvent à l'échelle supérieure à l'échelle humaine que l'on peut observer à l'heure actuelle. Mais il y a des exemples, vous connaissez, et vous faites ça en biologie, la phalène du bouleau, hein, le petit papillon qui est devenu en quelques années noir dans les régions industrialisées, alors qu'il était blanc auparavant, donc c'est un caractère qui a envahi une population dans certaines régions, pas dans d'autres. On peut parler également du développement de résistance aux nouvelles drogues chez les micro-organismes pathogènes. Alors, voilà. Donc, je vous ai montré ici, ici représenté la carte pour la malaria, et on voit qu'en rouge, vous l'avez, les régions rouges sont résistantes à certains antibiotiques. Les régions vertes sont sensibles. Et vous voyez que même les régions jaunes, là, sont multi-résistantes. Donc, il y a très peu de régions à l'heure actuelle qui sont sensibles à certains antibiotiques. Donc, on observe à l'heure actuelle, dans une période courte, un développement de résistance. Donc, c'est un caractère, une modification d'un caractère. Et bien sûr, il y a aussi tous les problèmes de domestication que l'on peut observer d'espèces animales et végétales. On peut également observer des ressemblances et des différences entre espèces vivantes et éteintes. Et ces ressemblances et ces différences ont été organisées toujours et de tout temps en une classification hiérarchique. Donc, bien avant Darwin, on hiérarchisait également basé sur des critères de morphologie, morpho-anatomie en général, et on hiérarchisait selon des degrés de similitude. Donc ceci est bien avant Darwin. On a pu construire ainsi des arbres phylogénétiques. Alors, juste quelques mots sur ces arbres et ces classements. La filiation pour Darwin doit être le guide de la classification. Alors, ici, je vous ai représenté comment peut-on regrouper les oiseaux, c'est-à-dire quels sont les caractères qui caractérisent les oiseaux, c'est-à-dire qui sont en commun. Donc, vous avez à peu près 10 000 espèces d'oiseaux regroupées sous le terme d'oiseau, on va dire. Donc, pour être un oiseau, il faut avoir des plumes, une queue rétrécie en pigostyle, un gros orteil retourné à l'arrière, deux clavicules fusionnées en fourchette, un bec et un sternum embréché. Donc, si vous avez ça, vous faites partie de la boîte oiseau. Alors, en ce qui concerne la boîte poisson, en fait, la boîte poisson n'existe plus. À l'heure actuelle, on ne parle plus de poisson. Ça ne correspond à rien en termes de filiation et d'apparentement entre les individus. Alors, je vous ai représenté un certain nombre de poissons, donc des poissons classiques, mais également le requin, le sélacanthe, pour montrer qu'il n'y a aucun trait exclusif à tous les animaux qui étaient classés habituellement dans les poissons. Donc, cette classification, cette boîte poisson n'existe plus. Donc, la classification est fondée uniquement sur les degrés d'apparentement, généalogie et phylogénie, c'est-à-dire les relations qui existent de parenté, qui existent entre les individus et doivent partager des caractères communs. Alors, je vous ai représenté, là, c'est un peu visible, c'est les vertébrés. Donc, les vertébrés, le caractère commun, c'est possèdent des vertèbres, donc bas. Et vous voyez que les poissons, on n'a pas une catégorie poisson, donc ils sont à peu près tous ici, mais ils présentent, alors soit ils ont des squelettes osseux, soit des appendices percharnus. Voilà. Donc vous voyez que vous n'avez plus, vous êtes sur le même niveau, maintenant vous avez les ostéiguiens et les sarcoptérygiens. Peu importe les termes, mais vous voyez que la classification est basée sur des caractères communs, hérités bien sûr d'ancêtres communs. Alors par exemple, les mammifères, qu'est-ce qu'ils partagent? Les mammifères, alors, je ne sais pas où est. Les mammifères partagent les poils et le lait, et donc vous voyez après les marsupiaux, singes et éléphants partagent la glande mammaire, et ensuite les singes et les éléphants partagent le placenta. Classe comme ceci. Alors, il ne faut pas oublier que l'évolution se déroule sur des millions d'années, donc ça veut dire accumulation importante de modifications au cours de ces millions d'années. Et en plus, à l'époque de Darwin, la génétique n'existe pas, on ne connaissait pas le support de l'hérédité, donc on ne savait pas comment se transmettaient les caractères qui étaient réglés. Et de plus, la découverte par la suite de gènes de développement, qui sont des gènes importants et responsables dans la morphologie, de la construction morphologique d'un organisme, certaines mutations de ces gènes pouvaient entraîner de brusques sauts évolutifs qui donnaient certaines explications d'absence de filiation, enfin de transformation graduelle. Alors, juste un petit pour dire que les Achéoptérix, par exemple, présentent des plumes, un anus retourné, des clavicules en fourchette, donc devraient faire partie des oiseaux, mais également, ils ont la queue avec 25 vertèbres, un sternum plat, pas de bec, mais des dents. Donc, l'archéoptérix est plus proche d'un oiseau que d'un tyrannosaure. Alors maintenant, on est capable de retracer l'arbre du vivant qui correspond à l'ensemble des hypothèses des relations phylogénétiques, c'est-à-dire les relations de parenté entre les organismes, et ce qui nous donne un schéma comme ceci, où vous avez les trois domaines, qui vont être mieux que moi, donc les archées, les bactéries et les eucaryotes. Alors dans chaque... à partir du moment où vous avez une lignée ancestrale, on va voir, je vais peut-être passer ici, c'était plus facile. Donc, vous voyez, lorsque vous avez une lignée ancestrale peut partager en deux lignées, et chacune des lignées évolue de manière indépendante pour donner une espèce avec des caractéristiques propres, mais partage des caractères ancestraux qui sont communs à la lignée ancestrale. Alors, on parle beaucoup de clade maintenant en phylogénie, et en fait, un clade regrouperait l'ensemble des individus, espèces, genres, qui sont monophylétiques, c'est-à-dire qui présentent un ancêtre commun. Donc je vous ai montré quelques exemples. Donc en vert, vous voyez, vous avez vraiment un clade. Tous ceux qui présentent sont regroupés. En bleu également, puisqu'il n'y en a qu'un, il présente un seul ancêtre commun. En rouge, vous voyez que ça ne correspond pas à un clade. Ce n'est pas monophylétique, c'est paraphylétique. On parle de paraphilie. Et à droite non plus, puisqu'il y a une des branches qui a exactement le même ancêtre commun, qui n'est pas inclus dans ce clade. Donc c'est clade est incomplet. Alors, on reprend le fil de l'évolution en termes d'histoire des êtres vivants. Donc, une observation. Alors, maintenant, le graphe de l'histoire de vie serait à une seule racine. Et cette question de l'unicité, c'est-à-dire un organisme unique à l'origine de l'ensemble des organismes actuels, elle est très ancienne, mais bien sûr elle change de sens selon que l'on a une vision fixiste ou que l'on a une vision évolutive. Bien sûr, c'est Pasteur qui en 1882 donc a mis fin à la génération spontanée, donc maintenant du temps de Darwin, donc vers la fin, on savait que la génération spontanée était impossible. Donc, qui dit unicité ancienne, unique, pas de génération spontanée. Donc, on a pu définir de manière différente les êtres vivants terrestres. Et ce serait donc un ensemble d'objets reliés les uns aux autres par des liens de parenté. S'ils sont reliés les uns aux autres par des liens de parenté, ils possèdent des caractères communs, ancestraux, et ils ont une généalogie, donc des relations généalogiques entre elles. Une autre observation que l'on fait, c'est que l'arbre de vie que je vous ai montré, les relations phylogénétiques, mais l'arbre de vie qui rassemble l'ensemble des organismes, possède des branches mortes. Alors, en effet, le plus simple, c'est l'observation de certains fossiles que l'on ne retrouve pas actuellement, et en particulier il y a eu des extinctions assez massives. Alors qui dit extinction dit pas transmission à la descendance et surtout pas de transformation pour donner une autre espèce, hein. C'est une lignée, une branche qui se termine complètement. Donc il y a eu des extinctions nombreuses, hein, au cours de l'évolution. Vous connaissez les extinctions qui ont lieu fin du Crétacé, donc c'est à peu près 65 millions d'années, des dinosaures et également des ammonites. Donc il y a eu extinction complète. Ces espèces n'ont pas donné de descendants et donc il n'y a pas eu de transformation et même autre espèce. Alors on peut dire aussi qu'actuellement, l'homme, depuis l'apparition de l'homme, il y a eu des extinctions et vous connaissez tous l'extinction de l'oiseau terrestre, le Dodo de l'île Maurice. Donc, l'arbre possède des branches mortes. On aura des branches qui s'arrêtent complètement. Alors maintenant, on va rentrer plus dans les mécanismes, puisqu'on va parler des grands principes de la théorie des changements des formes vivantes. Alors, pour qu'il y ait modification, transformation et évolution des formes vivantes, ça nécessite bien sûr un processus de transmission qui se fait par le biais de la reproduction ou de la réplication des êtres vivants, et ça implique obligatoirement ou implicitement une notion d'hérédité. Le descendant ressemble à son ou ses parents plus qu'à un organisme pris au hasard dans la population. Ça, vous connaissez. Alors, ça passe par deux biais, soit l'information elle-même, et cette information, elle est sous forme de génotype. Maintenant, on connaît la génétique, donc sous forme de génotype, ça veut dire les caractères, les allèles précis qui vont être transmis à la génération suivante. Et également, ça passe par l'expression physique qui correspond au phénotype. Le phénotype d'un individu, c'est les caractères visibles de cet individu. Et qui dit les caractères visibles, la taille, le poids, la couleur, ce caractère est obligatoirement en interaction avec l'environnement. Et on va voir que c'est les caractères phénotypiques qui sont en fait sélectionnés. Alors, je fais une petite parenthèse là, phénotype versus génotype. En général, un phénotype est sous-tendu par des génotypes. Si c'est monogénique, c'est un génotype. Si c'est multigénique, il y a plusieurs génotypes. Mais dans certains cas, alors par exemple, je vous ai montré un chat qui présente des oreilles pointues et des oreilles recourbées. Ça, c'est une caractéristique phénotypique, génotypique. Donc, inscrit dans le patrimoine héréditaire, l'ADN. Par contre, les flamants roses, les roses et les blancs, c'est une caractéristique phénotypique de couleurs différentes, mais en fait, c'est essentiellement lié à l'environnement. Dans ces cas-là, ça ne correspond pas à une mutation, à un caractère différent, puisque si le flamant rose mange une autre nourriture, peut devenir blanc. Donc, il faut faire attention, quand on étudie un caractère phénotypique, certains caractères phénotypiques ne sont pas génétiques, transmis. D'accord ? Donc là, la couleur rose, ce n'est pas un caractère transmis. C'est induit par l'environnement. Alors, le deuxième postulat, il faut une source de variation, puisque s'il y a modification, il faut qu'il y ait variation, et la source de la variation, bien sûr, maintenant, on sait à l'heure actuelle que c'est la mutation, et c'est la source première de toute nouveauté évolutive. Alors, la mutation a lieu sur l'ADN, qui est, vous connaissez, le support moléculaire de l'information génétique. L'ADN, de manière générale, est recopié à l'identique et transmis de cellule en cellule lors des divisions cellulaires de manière complètement normale. Dans certains cas, cette mutation subit des problèmes liés à voir pourquoi, et vous avez des mutations. Et ces mutations, bien sûr, ce seront à l'origine de la diversité des organismes. Alors, ces mutations peuvent se produire soit au niveau des gènes. Alors, on peut parler de mutations synonymes si ça a un impact sur la protéine qui est exprimée, ou non synonyme si ça n'a pas d'impact. Pardon, c'est l'inverse. Synonyme, non synonyme, il n'a pas d'impact, et synonyme, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bon, donc, alors attention, je vais le redire correctement, parce qu'il ne faudrait pas que vous me trompiez. Une mutation qui est dit synonyme, c'est la même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de modification, ça n'entraîne pas de modification au niveau de la protéine, donc aucune modification de l'organisme. Par contre, non synonyme, il y a des modifications du caractère de l'organisme. C'est important, puisque seules ces mutations seront impliquées, bien sûr, dans les modifications. Ces mutations peuvent intervenir également non seulement au niveau des gènes, mais au niveau de l'organisation de leur expression dans le temps et dans l'espace. Alors ça, c'est beaucoup plus récent comme découverte. Alors, quelles sont les causes des mutations? La majorité, alors il faut savoir quand même que la majorité des mutations arrivent de manière aléatoire et sont récurrentes, c'est-à-dire arrivent régulièrement dans le génome. Mais par contre, il y a certaines mutations, depuis l'industrialisation en particulier, qui sont, il y a un taux de mutation supérieur qui est induit par d'influences extérieures telles que l'environnement ou l'homme. Donc, je vous ai dit, pollution de l'air, les émissions radioactives, bien sûr, sont à l'origine de mutations. Mais la majorité arrive de manière récurrente dans le génome. Donc, on est heureusement, c'est ce qui fait, on a vu que c'était la source de la variation au niveau des espèces. Et c'est comme ceci que les espèces évoluent. Les mutations, donc, si c'est quelque chose de récurrent, elles sont rares et également aléatoires, mais au cours de l'évolution, c'est-à-dire des millions d'années, il y a accumulation, bien sûr, de ces mutations rares et aléatoires, ce qui fait que ça a un poids quand même important en évolution. Donc, ces mutations s'accumulent, et je vous ai représenté juste un diagramme phylogénétique ou un arbre phylogénétique, c'est une hypothèse en fait, si le rat et la souris sont plus proches parents entre eux qu'avec le lapin. Si l'on étudie une séquence ADN de leur génome, on devrait s'apercevoir qu'ils ont moins de modifications, de différences entre elles, c'est-à-dire moins de mutations, moins de différences entre elles, qu'elles n'ont entre ces séquences et le lapin. Alors vous voyez en bas, donc je vous ai représenté quelques séquences, et vous voyez que le rat et la souris avec les mutations bleues sont plus nombreuses que les mutations rouges, identiques entre rat et lapin par exemple, j'ai fait que rat et lapin, et autrement entre rat et souris en bleu. Donc ces mutations qui sont rares, aléatoires, mais qui s'accumulent au cours de l'évolution, elles devraient, si elles s'accumulent de manière constante, on devrait observer un taux de substitution qui est approximativement relation proportionnelle avec les dates de divergence des espèces. Donc plus les espèces sont proches, moins vous aurez de différences. Donc on va organiser également de manière phylogénétique avec non seulement des caractères anatomiques, mais des caractères moléculaires, les différentes espèces. Donc là, dans ces cas-là, quand je dis approximativement proportionnel, ce n'est pas tout à fait vrai, je ne rentre pas dans les détails. Là, dans ce cas-là, on parle d'horloge moléculaire dans le temps. D'autres caractéristiques des mutations, elles sont neutres pour la plupart, elles peuvent être délétères et plus rarement créatives de nouvelles fonctions. Lorsqu'elles sont... font apparaître des nouvelles fonctions, souvent c'est vers la complexification et c'est par des mécanismes de duplication de gènes et création de nouvelles fonctions. Donc ces mutations sont à l'origine de phénomènes qui vont complexifier et avantager l'organisme, bien sûr, qui le possède. Les mutations n'apparaissent jamais en réponse aux besoins de l'organisme. Ça, c'était Lamarck qui disait les mutations sous l'effet de l'environnement, la mutation est créée. Non, la mutation existe. Alors là, je vous donne un autre exemple. Les poux, hein, c'est pas très joli, qui sont de plus en plus résistants aux traitements chimiques qu'on leur donne dans les shampoings. Alors, les premières hypothèses, c'est qu'il y a dans la population des souches résistantes et ceux-là seuls vont transmettre ou ceux-là vont transmettre beaucoup plus que les autres. D'accord ? Et dans la deuxième hypothèse, c'est sous l'effet du traitement chimique, il y a mutation. Et là, on s'aperçoit que non, la variation, puisque maintenant on peut savoir quelles sont les variations possibles dans une population du point de vue moléculaire. On s'aperçoit que les mutations existent avant n'importe quel traitement. Donc, les résistants donc, sont favorisés, bien sûr, dans ces cas-là. Alors, on a vu la mutation qui est à l'origine de la variation et donc des modifications qu'on va observer au niveau des espèces et des organismes. Et maintenant, comment ces mutations, comment, à partir d'un pool de variations qui existent dans une population, puisque vous apercevez que la grande diversité qui existe entre organismes d'une même espèce, c'est-à-dire qu'on est variable et très différent les uns des autres. Donc, comment se fait le tri et comment on va transmettre nos caractères à la génération suivante. Alors, il y a deux processus de tri, un aléatoire et l'autre déterministe. Et donc, ces tri correspondent aux différentes pressions évolutives que sont, donc, pour le tri aléatoire, c'est la dérive génétique, et le tri déterministe, c'est la sélection naturelle. Alors, on va d'abord voir la dérive génétique. Alors, je sais que certaines classes l'ont appris, mais comme c'est un phénomène très important en évolution, ainsi que la sélection, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est le tri aléatoire. Donc, en fait, ça correspond à un phénomène d'échantillonnage aléatoire de gènes dans une population pour transmettre à la génération suivante. Alors, je vous ai représenté ici quatre générations avec donc un sac de boules vertes et de boules jaunes. Je fais faire ça à mes étudiants. Donc, chaque étudiant a un nombre identique de poches. On retire, là, je retire 10 boules, comme si c'était les gamètes, pour former 5 individus, en fait. Hein. Donc, et à chaque fois, on remet dans le sac la proportion de ce qu'on a retrouvé. Si je retire 6 et 4, et je veux 100 chaque population, hein. Donc, je remets 60 et 40. Et progressivement, on s'aperçoit que, de manière aléatoire, par tirage aléatoire dans une population, vous allez dévier des fréquences du départ. Alors, imaginez que ce sont des gamètes, hein. Vous aviez 50 pour un caractère, 50 un caractère et 50% l'autre caractère. Et à la fin, je suis déjà à 40-60. Et si on fait ça un grand nombre de fois, et si on va voir que c'est lié à la population, vous allez dévier par rapport à votre hypothèse du départ. On ne doit pas dévier s'il n'y a pas de sélection. On doit transmettre de manière identique. Donc là, c'est un phénomène complètement aléatoire. Alors, ce phénomène aléatoire, bien sûr, va dépendre de l'effectif des populations. Et on s'aperçoit que la dérive qui va conduire à une baisse, une diminution de la variabilité génétique dans les populations, elle est beaucoup plus importante dans les populations lorsque l'effectif de la population est de taille restreinte. Alors ici, vous avez à gauche une population de grande taille. Dans la population humaine, vous avez, de manière approximative, 50% d'hommes, 50% de femmes. Si maintenant vous considérez une population de petite taille qui est une famille, là j'ai représenté une famille de 4 enfants, on peut avoir une déviation par rapport à ce taux de 50-50, complètement. Donc plus la population est petite, plus le tirage aléatoire va avoir des conséquences importantes. Alors, la dérive, puisque c'est un mécanisme complètement aléatoire, neutre, hein, elle va servir de révélateur de l'histoire de la population. En effet, grâce à l'étude maintenant des génomes des populations, on va pouvoir rechercher une signature d'un événement démographique passé ou ancien. Alors, qu'est-ce que sont les événements démographiques anciens ou récents ? Imaginez une population qui, à un moment donné, a subi un goulot d'étranglement, c'est-à-dire une réduction importante de son effectif. Qu'est-ce qui se passe ? Même si la population était très importante au départ et qu'actuellement elle commence à redevenir importante, si elle est passée par un goulot d'étranglement, c'est-à-dire une petite taille de population, à ce moment-là, la dérive agit, c'est-à-dire la transmission aléatoire à la génération suivante va dévier par rapport à ce qu'elle avait de manière précédente. Alors, ici, je vous ai représenté ces mêmes sacs avec à la génération 3 un goulot d'étranglement, un bottleneck. Et vous voyez que si au départ, j'avais trois allèles, imaginer, 20%, 48%, 32%. À la fin, j'ai une réduction de la variabilité génétique, puisque par hasard, l'allèle jaune a disparu, le vert est devenu 70% et le rose 33%. 30%, pardon. Donc vous voyez qu'en étudiant la variabilité génétique dans les populations, vous allez avoir donc une réduction de la taille effective. Donc là, il y a deux exemples. Par exemple, l'éléphant de mer d'Amérique, dans les populations actuelles, elles sont assez importantes, mais on avait observé une variation, une diversité génétique à beaucoup de marqueurs, très faible, et en fait, c'est le fait au début du siècle, vous avez une réduction drastique de la taille des populations. Alors, la dérive, il y a un autre effet démographique, c'est l'effet fondateur lorsqu'une population va envahir et coloniser une autre population. Alors, les conséquences de la dérive, c'est variation, diminution de la diversité génétique. La dérive agit beaucoup plus rapidement si vous avez des petites populations, alors en particulier les petites populations rares et en danger, et la dérive peut contribuer bien sûr à la spéciation puisque c'est un pool génétique qui devient différent. Alors, ce sont des phénomènes naturels, mais qui sont aggravés à l'heure actuelle par l'homme, souvent la prédation, la chasse par exemple, mais également toute la fragmentation du paysage fait que les espèces sont de plus en plus isolées, et donc, qui dit isolées, il n'y a pas d'échange de migrants, et c'est des petites populations qui vivent entre elles et qui subissent la dérive, et donc, conséquence, diminution de la variation. Alors, le processus de tri sélectif, il faut, pour qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait une variation phénotypique dans votre population. Alors ici, des coléoptères, des vers et des brins. Ensuite, il faut que ces différences de phénotype correspondent à des différences de survie. Alors ici, je vous ai représenté, en effet, les vers sont plus visibles pour les oiseaux. Donc prédation, ça veut dire qu'ils vont moins transmettre leur allèle qui correspond au vert, par exemple. Donc la transmission, vous voyez ce qui va se passer. Et en termes de conséquences, petit à petit, vous allez avoir fixation d'allèles différents. Donc vous avez, par sélection différentielle, vous avez une fixation d'allèles. Alors, je passe. Donc, la théorie de l'évolution, alors à l'heure actuelle, c'était un petit peu dans les questions, c'est... À l'heure actuelle et encore aujourd'hui, le meilleur cadre conceptuel disponible pour comprendre rationnellement l'instabilité du monde vivant. Mais ce n'est pas une théorie figée, puisque depuis la naissance de la génétique moderne, avec la découverte, la redécouverte des lois de Mendel, la théorie de l'évolution pas été remis en cause, au contraire, ça a fortifié, puisque le problème de descendance avec modification, la modification, c'est la mutation et l'hérédité. Donc, elle apporte la théorie fiable de l'hérédité. Les enrichissements qui ont eu lieu au cours du XXe siècle, c'est des disciplines comme la génétique des populations, qui modélise en fait des caractères monogéniques au cours de l'évolution en utilisant les caractères mendéliens, mais c'est dans les populations. Des travaux également de Mayr sur la notion d'espèce en biologie, et dans ces cas-là, il estime que l'organisme tout entier serait soumis à la sélection, et des travaux de paléontologues également qui ont permis la naissance de la théorie synthétique de l'évolution, ou le néo-darwinisme, dont on tient compte, bien sûr, de la génétique des lois de Mendel. Donc le néo-darwinisme, le terme, ça vient de Huxley en 1942. Donc, les processus à l'origine de la biodiversité, en partant des mécanismes décrits par la génétique des populations, et en intégrant les données des naturalistes sur les variations naturelles. Donc tout ceci, c'est la théorie de l'évolution, donc ces processus. Alors, il y a le modèle neutraliste. Alors, je vous ai expliqué dans les mécanismes, la dérive, c'est en fait la dérive génétique qui est arrivée un peu par la suite de Kimura. Mais cette théorie qui, à un moment donné, tempérait le principe de sélection, mais ne l'a jamais invalidée. Et en fait, elle est tout à fait valable. La majorité, en effet, des variations moléculaires observées ne sont pas soumises à la sélection, donc vont évoluer par dérive, et d'autres vont évoluer par sélection. On peut parler également du modèle dit évolution à équilibre ponctué de Stephen Good, qui pense que la transformation des espèces, en fait, s'opérerait par à-coups, qui serait en réponse en général à des changements dans l'environnement, et ces à-coups seraient entrecoupés de périodes d'équilibre en fait, des populations. Il y a également l'apport de l'évo-dévo, qui est la génétique évolutive du développement. Donc, j'en parle pas. Alors, il y a quelques petits points intéressants. Actuellement, on considère que l'idée d'évolution, on ne fait plus aucun doute parmi les biologistes. Alors, si les détails des mécanismes qui permettent d'expliquer cette évolution font toujours l'objet de recherches intenses et diversifiées, en effet, ces questions constituent toujours un des champs scientifiques les plus vastes et les plus stimulants. Et en particulier, ça nous apporte également des clés pour prédire l'impact des changements globaux sur les organismes et les systèmes écologiques. Donc c'est important de l'écologie évolutive. Mais bien sûr, c'est parfois encore au cœur de controverses médiatiques et scientifiques. Alors l'homme peut-être, on va parler de l'homme. Donc tout le monde est d'accord pour dire que les chimpanzés et les gorilles sont les espèces les plus proches de l'homme dans la nature actuelle, que ce soit sur des caractères anatomiques, physiologiques, comportementaux, cognitifs. Mais il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a trois interprétations. L'interprétation fixiste de Linné et de Cuvier, qui a pourtant proposé une classification basée sur des caractères anatomiques. Mais la ressemblance qu'ils observaient entre les organismes ne remet pas du tout en cause la séparation immuable des espèces. Pour eux, c'est une création, c'est catastrophe-création à chaque fois. Deuxième interprétation possible, l'homme descend du singe. Alors, vous avez vu souvent cette petite image, on ne sait pas d'où vient l'expression « l'homme descend du singe ». L'évolution dans ces cas-là serait vue comme un progrès vers l'homme. Mais c'est très imprécis du point de vue scientifique, puisque les singes, à l'heure actuelle, existent encore. Donc, s'ils descendent des singes, à l'heure actuelle, c'est impossible. Et en plus, ils ont donné lieu à des conclusions erronées en paléanthropologie, puisque ça a permis de dire, à cause de ça, que l'origine de l'homme était en Asie, alors qu'il est en Afrique. Donc, la troisième interprétation, c'est une interprétation basé sur la méthode de Darwin et qui est basé essentiellement sur les relations de parenté. Si l'homme et les primates sont très proches, c'est qu'ils partagent un ancêtre commun. Donc c'est très différent, l'homme descend du singe. Donc ils partagent un ancêtre commun et donc vous voyez là les relations phylogénétiques. J'ai entouré la lignée hominoïde. Donc, mais nos lignées et celles des grands singes ont divergé et chacune d'elles ensuite continuer à évoluer. Donc, on n'est pas au bout de la chaîne des grands singes, mais on est au même niveau, en fait, puisque tous vivent. Donc, ça veut dire que dans ces cas-là, chacune des lignées continue à évoluer, bien sûr. Alors, la relation avec la biodiversité. On s'aperçoit que toute espèce est susceptible d'être sélectionnée. Toutes les espèces se reproduisent aussi longtemps qu'ils trouvent des conditions favorables à la reproduction, c'est-à-dire soit en ressources, soit en conditions physiques, hein, optimales d'habitat. Et le succès de la croissance et de la reproduction des espèces, bien sûr, dépend de ces optima physiques, mais aussi biologiques, c'est-à-dire que pour qu'il y ait reproduction des espèces, il y a interaction. On n'est pas seul, il y a des millions d'espèces. Donc il y a des interactions entre les différentes espèces pour conduire à l'évolution, bien sûr, de... Ah, je suis désolée. Alors, un point qui est important, je voudrais dire que Darwin, actuellement, est trop souvent enseigné sous le seul angle de la génétique et de la classification, hein, donc génétique avec le problème de la sélection, les mutations aléatoires, mais on oublie sa vision écologique du monde. Le système actuel est très complexe, avec des interactions entre les mondes végétaux et animaux, et toutes ces interactions constituent le moteur de l'évolution. Et Darwin l'a bien pressenti. Alors, ce qu'il faudrait, c'est expliquer que l'on fait partie intégrante de la communauté du vivant, on ne peut donc séparer l'homme de sa nature, que nos civilisations modernes tendent à vouloir imposer la maîtrise de l'environnement et à réguler l'avenir des pressions sélectives. Alors, les pressions sélectives, vous avez vu, le devenir, si vous avez une sélection, vous avez une population, elles présentent tous le même caractère. Donc, on travaille à l'heure actuelle à éliminer la diversité, ce qu'il ne faudrait pas. Et la diversité des espèces est une richesse qu'on ne peut prétendre réinventer. Et pendant de millénaires, les variétés se sont en fait adaptées à leur environnement, transmises. Et désormais, c'est un peu l'inverse. On demande aux écosystèmes, quels qu'ils soient, de s'adapter à quelques variétés. Donc, dans ces cas-là, on a oublié ce qui était important chez Darwin, c'est variation-sélection. Il faut qu'il y ait présence de la variation, c'est-à-dire qu'il faut variabilité, une diversité génétique dans les populations et dans les espèces pour qu'il y ait évolution et non pas extinction d'une population. Alors, bon, non, je pense que je vais arrêter ici parce que j'ai pris un peu de temps.